Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Заключительный этап для учащихся 9-11 классов. Уровень сложности B2+. Смоленск, март-апрель 2015 года. Конкурс понимания устного текста.
Compréhension de l'oral. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Avant la première écoute, vous aurez 2 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. Lisez maintenant les questions. Vous avez 2 minutes.
Écoutez l'enregistrement.
RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Xynthia, Katrina, Fukushima, toutes ces catastrophes que l'on dit naturelles le sont-elles vraiment? Oui, les tempêtes, les ouragans et les séismes sont d'origine naturelle, mais qui est responsable de la dimension catastrophique de leurs conséquences? Et si c'était nous, les humains, parce que nous construisons où il ne faut pas, parce que nous avons la certitude que nous sommes invincibles armés de notre technologie? Mais les faits nous donnent tort et les changements climatiques commencent à nous remettre à notre place. C'est à nous de nous adapter à notre environnement et pas l'inverse. À nous de choisir si nous sommes prêts à revoir notre manière d'occuper l'espace ou si nous préférons continuer à nous voiler la face en endossant le statut de victime de catastrophes naturelles qui pourtant ne le sont pas tant que ça, comme nous l'explique Alexandre Magnan, spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Oui, ce sont des catastrophes naturelles, c'est-à-dire que l'homme ne génère pas directement. Et en même temps, ce sont des catastrophes parce qu'elles affectent des sociétés, et qu'à partir de là, il y a effectivement des dégâts en termes de vie humaine, de dégâts matériels, etc. Donc les deux termes sont importants pour deux raisons. D'une part, conserver cet adjectif de naturel, c'est important parce que ça permet de distinguer ce type de catastrophe d'autres types de catastrophes, type industriel par exemple. Et puis, c'est un rappel quand même de la position de l'homme face à la nature.
Et alors, ce qui est intéressant dans votre démonstration, c'est que quel que soit l'endroit dans le monde, c'est-à-dire qu'il s'agisse du Bangladesh, des États-Unis, de la France ou même des îles du Pacifique, il y a des fondements communs de vulnérabilité aux risques naturels.
Oui, c'est vrai que d'un cas à l'autre, on a des histoires qui sont différentes dans les détails, mais qui se ressemblent beaucoup finalement dans les grandes lignes et qui nous apprennent effectivement ce qu'est le risque aujourd'hui. C'est par exemple l'occupation de plus en plus importante, parce qu'il y a une pression démographique, de zones qui sont naturellement à risque.
On va prendre un exemple que vous étudiez dans votre livre, c'est l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 et qui a été mortel, hein, les dégâts ont été très importants. Alors vous rappelez dans votre livre que finalement on a commencé à construire dans cette zone dès la fin du XVIIIe siècle, alors que finalement c'est une zone qui n'aurait jamais dû être construite.
Tout à fait. Elle avait simplement l'avantage à cette époque-là d'être à la confluence de trois grandes voies navigables, ce qui facilitait évidemment les échanges commerciaux. Mais effectivement, ces trois grandes voies navigables, ça veut dire des zones humides. Et des zones humides, ce sont des zones très basses. Et effectivement, la ville a colonisé cet espace. En trois siècles d'histoire, elle s'est agrandie considérablement. Et du coup, on a énormément de constructions qui sont dans des zones qui sont naturellement à risque. Katrina arrive, et là, effectivement, on a des dégâts en masse, finalement.
Alors la question, évidemment, c'est quelles leçons on tire de tout ça aux États-Unis? Est-ce que pour autant, on a arrêté de reconstruire dans cette zone?
Non, on n'a pas arrêté de reconstruire dans cette zone, comme on n'a pas arrêté de reconstruire dans les zones affectées par la tempête Xynthia en février 2010 en France. Alors combien faudra-t-il d'événements pour que les sociétés tirent des leçons? Malheureusement, il risque d'en falloir un certain nombre.
C'est un manque d'humilité humain finalement, on refuse d'introduire la contrainte environnementale dans nos modèles de développement.
Oui, je crois que c'est un effet pervers du processus de développement. Son gros défaut, c'est de ne plus accepter que la nature peut imposer des contraintes. C'est ce qui s'est passé au Japon, hein, un tsunami d'une intensité qu'on n'avait pas envisagée, et à partir de là, il y a toute une chaîne d'impact qui s'est dégagée, qui a été générée. Enfin, la conséquence la plus connue, c'est évidemment l'accident nucléaire. Mais oui, de toute façon, c'est d'accepter de réintroduire la contrainte environnementale dans notre manière de penser nos modes de développement. Il n'y a pas d'autre solution.
Commencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes. Écoutez l'enregistrement.
R.F.I. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur R.F.I.
Xynthia, Katrina, Fukushima, toutes ces catastrophes que l'on dit naturelles le sont-elles vraiment? Oui, les tempêtes, les ouragans et les séismes sont d'origine naturelle, mais qui est responsable de la dimension catastrophique de leurs conséquences? Et si c'était nous, les humains, parce que nous construisons où il ne faut pas, parce que nous avons la certitude que nous sommes invincibles armés de notre technologie? Mais les faits nous donnent tort et les changements climatiques commencent à nous remettre à notre place. C'est à nous de nous adapter à notre environnement et pas l'inverse. À nous de choisir si nous sommes prêts à revoir notre manière d'occuper l'espace ou si nous préférons continuer à nous voiler la face en endossant le statut de victime de catastrophes naturelles qui pourtant ne le sont pas tant que ça, comme nous l'explique Alexandre Magnan, spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Oui, ce sont les catastrophes naturelles, c'est-à-dire que l'homme ne génère pas directement. Et en même temps, ce sont des catastrophes parce qu'elles affectent des sociétés et qu'à partir de là, il y a effectivement des dégâts en termes de vies humaines, de dégâts matériels, etc. Donc les deux termes sont importants pour deux raisons. D'une part, conserver cet adjectif de naturel, c'est important parce que ça permet de distinguer ce type de catastrophe d'autres types de catastrophes, type industriel par exemple. Et puis, c'est un rappel quand même de la position de l'homme face à la nature.
Et alors, ce qui est intéressant dans votre démonstration, c'est que quel que soit l'endroit dans le monde, c'est-à-dire qu'il s'agisse du Bangladesh, des États-Unis, de la France ou même des îles du Pacifique, il y a des fondements communs de vulnérabilité aux risques naturels.
Oui, c'est vrai que d'un cas à l'autre, on a des histoires qui sont différentes dans les détails, mais qui se ressemblent beaucoup finalement dans les grandes lignes. Et qui nous apprennent effectivement ce qu'est le risque aujourd'hui. C'est par exemple l'occupation de plus en plus importante, parce qu'il y a une pression démographique, de zones qui sont naturellement à risque.
On va prendre un exemple que vous étudiez dans votre livre, c'est l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 et qui a été mortel, hein, les dégâts ont été très importants. Alors vous rappelez dans votre livre que finalement on a commencé à construire dans cette zone dès la fin du XVIIIe siècle, alors que finalement c'est une zone qui n'aurait jamais dû être construite.
Tout à fait. Elle avait simplement l'avantage à cette époque-là d'être à la confluence de trois grandes voies navigables, ce qui facilitait évidemment les échanges commerciaux. Mais effectivement, ces trois grandes voies navigables, ça veut dire des zones humides. Et des zones humides, ce sont des zones très basses. Et effectivement, la ville a colonisé cet espace. En trois siècles d'histoire, elle s'est agrandie considérablement. Et du coup, on a énormément de constructions qui sont dans des zones qui sont naturellement à risque. Katrina arrive, et là, effectivement, on a des dégâts en masse, finalement.
Alors la question, évidemment, c'est quelles leçons on tire de tout ça aux États-Unis? Est-ce que pour autant, on a arrêté de reconstruire dans cette zone?
Non, on n'a pas arrêté de reconstruire dans cette zone, comme on n'a pas arrêté de reconstruire dans les zones affectées par la tempête Xynthia en février 2010 en France. Alors combien faudra-t-il d'événements pour que les sociétés tirent des leçons? Malheureusement, il risque d'en falloir un certain nombre.
C'est un manque d'humilité humain, finalement. On refuse d'introduire la contrainte environnementale dans nos modèles de développement.
Oui, je crois que c'est un effet pervers du processus de développement. Son gros défaut, c'est de ne plus accepter que la nature peut imposer des contraintes. C'est ce qui s'est passé au Japon. Un tsunami d'une intensité qu'on n'avait pas envisagé, et à partir de là, il y a toute une chaîne d'impact qui s'est dégagée, qui a été générée. Enfin, la conséquence la plus connue, c'est évidemment l'accident nucléaire. Mais oui, de toute façon, c'est d'accepter de réintroduire la contrainte environnementale dans notre manière de penser nos modes de développement. Il n'y a pas d'autre solution.
Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.